Cette émission est une rediffusion.
Une femme parle de science et font toutes sortes d'expériences. Et tout ça sur les ondes radio. Elles vous font la leçon et font jouer du bon son. Puis repartent dans leur vaisseau spatial. Voici l'émission.
Jeudi 7 décembre, il est 13h, vous êtes à l'écoute de Jimmy Neutron. Bonjour Corinne.
Bonjour François.
Comment ça va?
Ben ça va bien. Grosse semaine, fin de l'année scolaire.
Oui.
Tranquillement.
Oui, tranquillement.
Ouais.
En chemin vers Noël.
Oui. Oui, exactement. On a eu de la neige en fin de semaine, un petit peu. Fait que, C'est excitant.
Ça a de l'air de l'hiver.
Ouais, tranquillement. Est-ce qu'on va avoir un Noël blanc cette année? Grande question toujours, mais.
Je ne me prononcerai pas là-dessus.
Moi non plus, mais on sait tous ce qu'on en pense.
Qu'est-ce qu'on en pense?
On espère.
Ah oui, on est des partisans du Noël blanc. Oui. À l'émission, il y a des partisans du Noël blanc.
Ouais.
Excellent. Donc, aujourd'hui, 7 décembre, lendemain du 6 décembre.
Oui.
Donc, Corinne, que s'est-il passé le 6 décembre 1989?
Le 6 décembre 1989, il y a 14 femmes à Polytechnique qui se sont fait lâchement assassiner. Hein? Donc, un féminicide très marquant dans l'histoire québécoise et canadienne.
Mm-hmm.
Puis voilà, c'est commémoré à chaque année à Polytechnique et plus globalement, je pense, au Québec.
Mm-hmm.
Puis depuis les débuts de Jimmy et Neutron, je pense qu'on à chaque année, dans la période, soit c'est la semaine avant ou la semaine après, on fait une émission spéciale pour souligner les femmes en sciences parce que c'est important.
Ouais.
Puis il existe encore un écart important entre les sexes. Pas juste en sciences, mais bon, notre émission est scientifique. Donc,
s'intéresse à cet élément-là.
Exactement.
Et d'ailleurs, parlant de la tragédie de Polytechnique, il y a au théâtre en ce moment une pièce de théâtre qui s'appelle Projet Polytechnique.
Ouais.
Je sais même pas s'il reste des billets.
Moi, j'ai regardé ça termine le 13 décembre, c'est la dernière représentation à Montréal, et il en restait. Mais il en reste pas beaucoup, mais il en reste.
OK. C'est au TNM. Si vous manquez la pièce à Montréal, elle sera en tournée au Québec par la suite. Donc, il y aura toujours possibilité de la voir ailleurs. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller la voir il y a une semaine. Donc, le projet Polytechnique. Donc, c'est du théâtre documentaire. Donc, ça retrace qu'est-ce qui s'est passé le 6 décembre 1989, mais surtout l'après. Donc, en fond, comme théâtre documentaire, ça reprendre des témoignages de personnes qui ont survécu, des témoignages des familles, des victimes, des témoignages aussi des personnes qui militent pour le contrôle des armes à feu, mais aussi des témoignages de personnes qui sont impliquées dans l'étude de la haine en ligne, parce que ça, c'est un des aspects qui est couvert par le spectacle, c'est le crime commis à Polytechnique était clairement un crime haineux envers les femmes, mais il n'y a pas juste les femmes, malheureusement, qui sont victimes de crimes haineux. Donc, le projet Polytechnique, la pièce, se permet aussi d'aller explorer les autres groupes de personnes qui sont victimes de crimes haineux et de voir c'est quoi les rapprochements entre les deux, d'autant plus que dans les certains milieux, anti-féministes, la personne qui a perpétré les actes à Polytechnique est comme élevée à un niveau de genre sainteté. C'est comme quelqu'un... Voilà. Donc, oui, c'est vraiment une pièce qui est... le propos est assez difficile. Si, en plus, vous avez un lien quelconque avec l'ingénierie ou Polytechnique, je pense que les choses sont très... vous parlent beaucoup. Mais en même temps, ils réussissent quand même avec une petite touche d'humour à faire en sorte qu'on se sent pas mal pendant 3 heures, parce que la pièce dure quand même 2h50.
Ouais.
Donc... moi, je recommande fortement, si vous avez l'occasion d'aller voir Projet Polytechnique, allez-y. Je pense que c'est des enjeux qui sont actuels. La haine en ligne, c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment.
Oui, c'est un fléau.
Avec des choses qui sont clairement inacceptables, qu'on peut même pas s'imaginer que ça existe dans les recoins noirs du web, même des fois des recoins pas tant noirs du web.
Oui, c'est ça.
Fait que, donc voilà, Projet Polytechnique... qui joue en ce moment, en même temps que les commémorations du 6 décembre et en même temps que Jimmy et Neutron sur les femmes en sciences.
Exactement,
voilà.
Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, playlist, évidemment, où toutes les artistes sont des femmes. Oh. Voilà, c'est notre petite contribution aussi dans le milieu musical.
À la visibilité des artistes féminines.
Tout à fait. On commence d'ailleurs avec Calamine, avec sa pièce « Vie aux villes » qui vient tout juste de sortir.
De ta Honda, j'ai pas trop, j'ai plus de batterie. Les chauffeurs font du bad trip. J'suis mal encadré, puis j'ride sur des tas volés comme ma patrine. Up and down sur Sainte-Catherine. La météo disait tempête. Grosse gueule ou c'est champagne. Skirt, skirt dans le bon neige. In and out dans le bike shop. J'ai même pas changé mon flat. Hey, all talk, zéro action. L'amour propre des gonflables. Hey, grosse gueule ou mes bons sports. Pas dans le schlag, c'est ça déneige. Grosse gueule ou ça passe pas comme ta carte quand t'es déneige. Rouler pendant qu'il reste de l'essence. Fais au-dessus de zéro en décembre. J'suis high mais j'connais bien la redescente. Un vélo plein c'est plus nice que les cendres. J'ride des tas volés en me disant que au pire. Fais-moi juste à tout bouffer vie au fil. J'ride around moi j'suis trop sensible. J'bike si ça je fais de pouce dans it. Pendant qu'il reste de l'essence. Fais au-dessus de zéro en descente. J'suis high mais j'connais bien la redescente.
Rouler, c'est ma motion, c'est comme un piéton, il faut la faire passer. Avec ton gros short, tu peux ben tosser. On change pas le monde, c'est une affaire classée. J'dors pas au corps, j'suis peut-être blasé. On aurait pensé qu'il y avait quelque chose qui ferait. Mais non, c'est Raymond qui a les poids. Ils ont pas vu le temps, puis ont rasé la forêt pour parquer des containers, oh les poids. Wow, nouveau vélo, il est noir, man. J'ai doublé ta voiture énorme. Baisse ta fenêtre si tu m'entends gueuler. Non, j'suis même pas gelé, ça c'est l'état normal. J'suis pas dans les champs, même en dormant. J'te jure, le matin, j'suis encore mal. Genre de paysage qui fait sentir esselé. Les containers, ça décore mal. Traite devant les coops et la RPE. Rien les empêche, non, fallait qu'ils fassent. Faire autant de dégâts, ça doit être payant. On fait tourner le monde, juste sur un pile-face. Coller sur le fleuve, pas un air baignable. Appelle ça un euphémisme. Même les manifs ont plutôt l'air légal. Laissez crever les pots. Moi, pour me gérer l'affect, je veux griller la verte. J'ai assez de sang pour faire deux phoenix. Yeah, j'boffe le trafic du boulevard. Tried around à votre santé. J'lâche le guidon juste pour voir. C'est comme le reste, ça va planter.
Rouler pendant que reste de l'essence. Fais au-dessus de zéro en descente. J'suis high, mais j'connais bien la redescente. Yeah.
Ça a rendu que la moitié de ce qu'on regarde est en fioul. Fait que là, ça marche plus.
Donc, ça marche plus, mais nous, ça marche encore.
Oui, ça marche encore pour la prochaine heure. Un peu moins maintenant.
Oui, bon. En tout cas, ça marche encore pour le prochain bloc, d'ici à la prochaine chanson. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron, et cette semaine, on parle de femmes en sciences en lien avec les commémorations du 6 décembre 89 à Polytechnique. Et c'est moi qui commence, en fait. Oh là là. L'année passée, ou du moins... La dernière fois que j'avais participé à cette émission spéciale sur les femmes en sciences, j'avais sélectionné une ingénieure canadienne qui était peu connue et qui avait participé à l'avancée de l'aéronautique canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette année, je vais vous parler de Anne Canto. Donc
qui est-ce?
Ouais, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui est connu ici, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est 100% inconnue. Donc, dans le fond, Madame Canto a quand même été récipiendaire d'un prix en 2023 là, pour ses réalisations scientifiques. Donc, elle n'est pas non plus dans l'ombre. Là. Ouais. Donc, le hic avec les personnes vivantes aussi, c'est qu'elles n'ont pas fini de faire leurs recherches. Donc, aussi, on n'a pas encore de recul pour considérer toute l'étendue de l'impact de ce que ces personnes-là sont en train de faire. Je voulais pas non plus une personne super présente dans l'actualité parce que c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles personnes qui sont pas nécessairement couverte par les grands médias ou l'actualité scientifique du moment. Donc, je me suis dit, Anne Canto, qui n'est pas une parfaite inconnue, donc le prix qu'elle a gagné, mais qui n'est pas non plus une tête d'affiche de ce côté-ci de l'Atlantique dans les médias. Donc, Madame Canto a gagné en 2003 le prix Irène Joliot-Curie, donc qui est pour la femme scientifique de l'année en France. Donc, le prix Irène Joliot-Curie est nommé en l'honneur de la scientifique du même nom, qui est fille de Marie Curie et qui existe depuis 2001 et qui est décernée depuis 2011 par l'Académie française des sciences. Alors, qu'est-ce que Madame Canto est? Qui est-elle? Donc, Madame Canto est directrice de recherche dans l'équipe du projet COSMIC, avec un Q. J'ai pas trouvé... il décrivait pas si c'était un acronyme ou si c'est juste un jeu de mots, en tout cas.
OK.
Donc, mais j'imagine que c'est... sûrement en lien avec ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, elle est directrice de recherche du projet COSMIC de l'Institut national de recherche en sciences et en technologie du numérique à Paris. C'est une spécialiste de la cryptographie. Est-ce que tu sais c'est quoi la cryptographie?
Non, pas du tout.
Donc, la cryptographie, c'est la protection des données par des codes ou des clés qui rendent l'information difficilement accessible pour quelqu'un qui n'a pas le code ou la clé. Donc, ça fait longtemps que on va faire de la cryptographie, donc, et qu'on va parler de décryptage. On va retrouver aujourd'hui la cryptographie dans plusieurs domaines, dont les applications militaires, les applications gouvernementales, mais aussi pour des applications quotidiennes comme les transactions bancaires et les clés de voiture.
OK.
Anne Canto, elle rêve d'une écriture impénétrable, car si la cryptographie rend le décodage de l'information plus difficile, ce n'est pas impossible à décoder. Donc, toutes ces fuites d'informations, tous ces logiciels qui réussissent à aller décoder les données encryptées. Et ça permet à des personnes souvent mal intentionnées de venir voler les informations ou encore de prendre le contrôle d'appareils ou de systèmes qui sont parfois sensibles. Et c'est d'ailleurs un de ses champs de recherche en s'intéressant à la conception de nouveaux algorithmes pour protéger la confidentialité des données et améliorer la sécurité des systèmes. Madame Canto travaille sur des applications médicales de la cryptographie. Donc, on peut s'imaginer ici des implants avec un contrôle à distance ou encore des pacemakers, là, donc des défibrillateurs cardiaques qui sont contrôlés à distance. Donc, dans le fond, comme c'est des applications où la vie du patient est directement en danger, ben, ce serait important que les données soient encryptées de manière à ce que pas personne de malveillant puisse prendre contrôle de, votre stimulateur cardiaque.
Donc, ce serait idéal, je dirais.
Oui, donc dans le fond, dans ses champs de recherche, c'est ça. Donc, elle s'intéresse à des applications très très poussées de la cryptographie, tout en essayant de développer des méthodes ou des algorithmes pour les rendre de plus en plus infaillibles. Donc, ce qu'elle essaie de faire, c'est qu'elle teste les systèmes existants et les systèmes à venir pour trouver des failles avant qu'une personne malveillante ne le fasse avant elle. Donc, en fond, elle est un peu comme une pirate, une gentille pirate informatique.
Une pirate prévoyante.
Ouais, c'est ça. Je sais pas, on pourrait trouver un meilleur terme, j'imagine. Donc, en marge de la réception de son prix en 2023, Anne Canto a aussi été assez critique de la place des femmes dans les sciences, considérant que la situation en France va en s'empirant. Donc, elle est critique des réformes des programmes scolaires français qui ont réduit la place des mathématiques au niveau du lycée, affirmant que ça l'a créer une chute des admissions des femmes dans les programmes d'études supérieures en sciences. Et aussi, elle dénonce le peu de femmes sélectionnées par les jurys pour l'attribution des chaires de recherche depuis la mise en place d'un nouveau système d'attribution de ces postes en 2021 en France. Donc, par ailleurs, ces dernières critiques, c'est ce qui ont inspiré ma prochaine chronique. Donc voilà, Anne Canto, récipiendaire du prix Irène Joliot-Curie en 2023 par l'Académie des sciences de France.
Eh ben, c'est intéressant. C'est la pirate. J'ai toujours pas trouvé de nom, hein, par contre, pour son titre.
Une pirate sympathique. Non, ça marche pas non plus. Ouais. On va penser à ça.
On est content qu'elle fasse ça aussi. Il en faut. Sur ce. On poursuit en musique. Mm-hmm. On va aller écouter Marigold avec 20%.
Has-been promet carrière éternelle. Mais j'embarque pas dans la kermesse. Si tu veux deal, il faudra dealer selon nos termes. J'ai pas entendu ta bullshit, j'éternuais. J'ai dit 100 fois ce que je ressentais. Il a fait genre ouais, continue d'envoyer les mails. Menti quand même. God damn, t'as oublié qu'on peut se parler entre nous. Les rappeuses, leur instrument, c'est le cœur et leur bouche. Papa Noël, tu vas te calmer, pompons. On n'est pas des pompons, girl douce, bonne, cabole et bonbon. Je te vois venir en 10 roues, me parle pas comme un tonton. On mène une vie en si doux, boomer, reste dans ton ponton. Papy m'appelle par mon prénom, veut m'apprendre ce qu'est la pression. Mais je connais déjà la gestion, les meufs donnent l'impression. Bitch, j'ai les estompes. Après ça, you chill, c'est pas 9 heures que t'épanches. Boy, fais le beau semblant. Il demande son 20%. Il demandait son 20%. Performé pour les caméras, je connais le commérage. La vague est haute amiral, les femmes se battent pour le régal. Qui gère le cash? Marie et ses amis. C'est moi qui ai la bague, donc où c'est qui les génies? Ça se veut rassembleur, mais ça les écarte. Après ça demande pourquoi les filles ne font que lever les gardes. Débarrasser des emmerdeurs, c'est ma démarche. J'y pense tellement d'heures, je devrais demander un T4. Foutez-nous la paix, c'est ça le vrai rappel. Je les enterre comme les vieux démons et j'oublie de nettoyer la pelle. Puissante boy, au prochain appel je ne réponds pas. Et au prochain texte je réponds lol. Je suis animal sauvage, humaine derrière personnage. Pas très rosé son aura et moi j'ai très bon odorat. T'as voulu la baveuse et rien d'autre, tu l'auras. Boy, fais de beau semblant. Il demandait son 20%. T'as voulu travailler qu'avec des femmes fortes. Well, baby, get what you pay for. Boy, fais de beau semblant. Il demandait son 20%. T'as voulu travailler qu'avec des femmes fortes. Well, baby, get what you pay for.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron, et cette fois, c'est le tour de Corinne de venir ajouter son grain de sel à cette émission sur les femmes en sciences. Donc, Corinne, toi, tu vas nous parler de la reconnaissance des femmes.
Exactement. On a dans les années précédentes, quand on faisait cette émission de femmes en sciences, souvent on faisait des portraits, comme tu viens de faire en première chronique. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans quelque chose d'un petit peu différent. Puis, je vais commencer en vous parlant d'un article qui a été publié dans le journal Nature, le célèbre journal Nature, mm-hmm. devrais-je dire, l'an dernier, en 2022, il est intitulé « Women are credited less in science than men ». Donc, les femmes reçoivent moins de crédit en science que les hommes. Juste le titre m'énerve un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais bon, ça va pas être une chronique du type féministe frustrée que je vais faire aujourd'hui. Mais bon, je vais vous parler un peu de cet article-là. C'est quand même assez connu qu'il existe un écart entre les sexes dans bien des domaines, et ça inclut la science, évidemment. Donc, les scientifiques ne sont pas meilleurs que les autres à ce sujet. Mm-hmm. Pas du tout, loin de là même, devrais-je dire. Les femmes publient moins que les hommes et déposent moins de brevets. Ça, c'est des statistiques qui sont connues et ça existe. Pourquoi? C'est là que c'est la question. Ben déjà, on va reculer d'environ une centaine d'années. À l'époque, je pense que les femmes, je suis pas certaine qu'il y a où ça commençait, les femmes à l'université, dans les années 20. Je pense que ça commençait à peu près à cette époque-là. Mais sinon, tout le personnel, tous les professeurs, c'était tous des hommes. Donc, déjà, on part de loin, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, on rattrape peut-être pas autant qu'on voudrait. Puis donc, pourquoi les femmes publient moins et déposent moins de brevets? Mais il y a certaines données qui mettent de l'avant que les femmes seraient moins productives en recherche à cause de divers causes qui changeraient selon d'une femme à l'autre. Mais ce serait soit une charge familiale plus importante parce qu'elles travaillent peut-être pas dans des bons environnements, ou alors parce qu'elles ont différents postes dans les laboratoires de recherche qui mènent moins que leur nom soit dans les publications. Il y a d'autres données qui indiquent, elles, que c'est pas une question de productivité parce qu'elles seraient pas moins productives, mais plutôt qu'elles sont sous-évaluées. Et l'étude dont je vous parle aujourd'hui vient renforcer cette hypothèse-là. Les auteurs, d'ailleurs le premier auteur c'est un homme, j'ai trouvé ça drôle, mais le dernier auteur, qui est souvent l'auteur le plus important, le corresponding author, c'est une femme.
Okay. Voilà. Mais ça, rapport. Ça, c'est les mains qui écrivent ou?
Ça dépend. Ça, ouais. Ça dépend vraiment d'un labo à l'autre, okay. D'un type de science à l'autre. Dans les sciences de la vie, là, je vais dire en général, là, donc ce que moi je fais, le dernier auteur, souvent, ça va être le directeur ou la directrice de recherche, okay. Donc le chercheur principal. Mm. Puis les premiers auteurs, ça va souvent être soit des étudiants. Puis le modèle va être différent d'un lab à l'autre, là, parce qu'il y a pas de vraie ligne de directrice, mais souvent pour faire profiter pour faire gagner en expérience les étudiants, généralement les chercheurs chercheuses vont demander à leurs étudiants d'écrire les articles, mais eux ils vont les revoir de fond en comble, okay. Avant de les publier, évidemment. Mais c'est pas comme ça dans tous les labos. Ça dépend. Donc, eux, dans l'article, ils donnent l'exemple bien connu de Rosalind Franklin dans la découverte de la structure de l'ADN. Donc, petit rappel pour s'il y en a qui auraient jamais entendu cette histoire. C'est elle qui a fait la majorité du travail, mais c'est Crick et Watson qui ont écrit l'article, et son nom à elle n'apparaît pas dans la liste des auteurs. T'sais, même pas crédité, là, alors que comme tout lui reviendrait... Et qui ont pris le prix Nobel. Ceci dit, elle était morte au moment du Nobel. Fait qu'elle aurait pas pu l'avoir anyway. Mais, quand même. Et t'sais, c'est quand même, t'sais, on dit toujours, Watson Crick.
Oui, Watson et Crick.
C'est toujours Watson et Crick. C'est jamais Watson Crick et Franklin. Ou Franklin, Watson et Crick. En tout cas. Bref. c'est une histoire connue. Puis, en fait, la vérité, c'est que c'est probablement la plus connue, mais c'est certainement pas la seule. Puis, il y a là l'enjeu. À part dans ce cas précis, c'est relativement dur de quantifier le nombre d'articles ou d'études ou de brevets pour lesquels il y a, au total, ça doit être des milliers de femmes qui ont pas eu de crédit. Parce que c'est comme chercher quelque chose d'absent. C'est compliqué de faire ça. Ben tu cherches, comment tu fais pour chercher?
Trouver le vide.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Puis les ressources bibliométriques qui existent ont souvent uniquement la liste des auteurs ou des inventeurs. Donc celles qui ne sont pas nommées, ben, elles sont pas là, évidemment. Donc ça devient un petit peu compliqué. On peut pas prendre des études de cas non plus pour essayer de quantifier ce problème-là, parce que une étude de cas, ça se généralise pas à large échelle, parce que ça inclurait des biais qui sont trop importants. Tu sais, chaque cas va être un petit peu différent aussi. Fait que ça devient difficile de le voir. Dans l'article en question, ils ont eu accès à des données vraiment poussées et inédites. Donc, un total de 9778 équipes sur une période de 4 ans, ce qui correspond à 128 859 personnes. Donc, c'est des grosses données. Et ça provenait de 39 000 articles de journaux scientifiques, 7 000 et quelques brevets. Donc, franchement, gros travail d'analyse ici. Puis, les données comprennent des informations sur les postes occupés par chaque individu dans chaque équipe, ainsi que sur leur sexe. Donc, c'était possible de calculer pour chaque individu s'il a été crédité ou non dans un article donné, et faire le calcul selon le sexe. Donc, les données viennent de 3 sources principales, puis chacune des sources apporte des informations différentes. Donc, la première source, c'est des données administratives à grande échelle sur les équipes de recherche, la production scientifique de l'équipe et l'attribution du mérite. Puis, ce qui vient de cette source-là montre que les femmes ont nettement moins de chances d'être citées dans un article ou un brevet produit par leur équipe que leurs homologues masculins. Ça, c'est la première chose qu'on en ressort. Puis que l'écart entre les sexes en matière d'attribution est présent dans la plupart des domaines scientifiques et presque à tous les stades de carrière.
Mm-hmm.
Et ça, c'est pas bon. Pour moi, notamment, je pense juste à moi ici, mais je suis comme, ça ne promet pas pour la suite. La deuxième source, c'est une enquête approfondie auprès des auteurs, montre sensiblement la même chose, que les contributions scientifiques provenant de femmes sont systématiquement susceptibles d'être moins reconnues. Et finalement, on a eu accès, pas moi, évidemment, mm-hmm. ils ont eu accès à des réponses qualitatives. Il suggère que la raison pour laquelle les femmes sont moins susceptibles d'être reconnues est que leur travail n'est souvent pas connu, apprécié ou il est carrément ignoré.
Okay.
Donc ça, c'est les conclusions de l'article. C'est vraiment un article de métaux, là, parce que ce qui est dommage, en fait, je trouve, c'est que, ce qu'on voit, c'est que le portrait est vraiment loin d'être luisant, mais c'est qu'il donne aucune piste de solution.
Okay.
Ils font juste dire, genre, c'est ça qui se passe. Les femmes sont moins reconnues, et ce, à divers stades de carrière, tu sais, c'est des grosses données, comme je le disais, on parlait de quasiment 40 000 équipes, j'ai dit. Non, 9 000 équipes, pardon. Mais c'est tout. Ils font juste comme état de la situation.
Puis voilà. Les femmes sont moins reconnues, point.
Ouais.
Voici comment le démontrer.
Oui, voilà. Puis après, je pense que ces données-là, après, sont accessibles pour que ça soit répété dans d'autres pays, pour faire un portrait plus global de la situation. Mais c'est tout. Puis je trouve que, il manque quelque chose. Mais après, ouais, c'est ça. Fait que c'est ma critique de la chose. Puis le portrait est juste pas reluisant. Puis c'est dommage quand t'es une femme
puis là,
en science.
T'es comme,
quoi.
Je fais juste être déprimé.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Fin. Donc ouais. Puis on va en parler dans la suite de l'émission. Mm-hmm. Il met un gros enjeu là-dedans, c'est l'attribution du financement. Mm-hmm. Ça, c'est compliqué. Puis moi, je le vois déjà en ce moment, je suis au niveau doctoral, mais même quand j'étais à la maîtrise, parce que ça fonctionne sensiblement de la même façon pour les bourses, c'est compliqué.
Mm-hmm.
Faut que tu prouves que t'es le meilleur, faut que tu te vendes par tous les moyens possibles. Et c'est pas facile pour tout le monde de faire ça. Puis il y a même des données qui montrent, c'est pas nécessairement dans le domaine scientifique, mais qui montrent que les hommes sont peut-être meilleurs à faire ça aussi. Fait que
ouais.
Ça rend ça un petit peu compliqué. Donc il faut souvent...
C'est un peu un système qui s'auto-alimente. Là.
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est mon opinion personnelle, mais il faut mettre en place des mesures pour donner des chances égales. C'est mm-hmm. ça, souvent l'important. Puis j'ai déjà eu des discussions avec des collègues à ce niveau-là. Puis je trouve que c'est poche. Puis là, on s'éloigne de l'article, mais imposer des quotas,
mm-hmm.
ça, c'est pas cool, je trouve. Parce que ça fait genre, t'es une femme, on t'a pris juste parce que t'étais une femme. Mm-hmm. Mais sinon, on t'aurait peut-être pas pris parce qu'on trouvait qu'il y avait un homme de mieux. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire du travail en amont pour que ça soit, qu'il n'y ait pas ce besoin d'imposer des quotas, que juste le bassin soit suffisamment riche en hommes comme en femmes pour qu'il y ait comme une parité naturelle qui s'installe.
Mm-hmm.
Voilà, ça c'était mon my two cents.
C'est ton éditorial d'aujourd'hui.
Exactement.
Excellent.
Fait que sur ce, on va poursuivre en musique. On va réfléchir à tout ça. On va aller écouter Par hasard avec Elle était une fois de son EP qui a paru il y a quelques semaines.
Tous les matins, elle se réveille avec cette peur de la vie, car elle sait, viendra le moment où le navire chavire. Aucune personne ne se demande ce qu'elle cache derrière ce sourire. À l'intérieur d'elle, c'est le néant, son âme va bientôt périr. Et plus jeune, les embrouilles faisaient partie de son quotidien. Même dans les pires moments, elle se tait non, elle ne dit jamais rien. Toute sa vie, elle faisait que de gribouiller toutes sortes de poèmes. Elle a jamais su comment dire à sa propre mère « Maman, je t'aime ». Sans oublier Aïe Aïe Ibra, un peu de réconfort de les prendre dans ses bras. Un peu d'effort, demain ça ira, avec l'angoisse est-ce qu'elle dormira. Elle pensait s'en sortir mais c'est qu'un mirage, elle voulait traverser ce foutu rivage. Maintenant pour réussir faut bien un miracle, et pas un salaire minable.
À zéro elle veut repartir, juste une envie de s'en sortir.
crois qu'elle a le mal de vivre. Dans ses textes, elle se délivre. Elle était une fois, non, c'est plus la même. Elle sait maintenant qu'on compte sur soi-même. Dans la tombe, mais qu'est-ce qu'on emmène? Avant de partir, maman, sache, je t'aime. Elle était une fois, non, c'est plus la même. Elle sait maintenant qu'on compte sur soi-même. Dans la tombe, mais qu'est-ce qu'on emmène? Avant de partir, maman, sache, je t'aime. Depuis le temps que j'essaie de m'échapper de ce cauchemar, face à moi-même j'ai dû me retrouver chaque soir. À court de temps, ouais, j'ai souvent fait les mauvais choix. Dans mon wagon, j'savais pas comment changer de voie. J'ai mal compris comment marchait la vie. Et pourtant, maman m'avait dit qu'on peut perdre l'équilibre. Je voulais être libre, j'ai dû tout rebâtir. Mal de vivre, j'ai connu la dérive. J'savais plus ce qui m'arrive. Dans ce monde rempli de mythos, manipulé par les réseaux. Non, j'écoute pas les infos, car ça confond le vrai du faux. Pas besoin d'alter ego, avec moi-même j'ai tout ce qu'il faut. J'entendais comme un écho, j'ai dû compter tous mes défauts. À zéro, elle veut repartir, juste une envie de s'en sortir. Je crois qu'elle a le mal de vivre. Dans ses textes, elle se délivre. Elle était une fois, non, c'est plus la même. Elle sait maintenant qu'on compte sur soi-même. Dans la tombe, mais qu'est-ce qu'on emmène? Avant de partir, maman, sache, je t'aime. Elle était une fois, non, c'est plus la même. Elle sait maintenant qu'on compte sur soi-même. Dans la tombe, mais qu'est-ce qu'on emmène? Avant de partir, maman, sache, je t'aime.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et cette semaine, nous abordons le thème des femmes en science. Voilà. C'est quand même un gros thème.
C'est un gros thème.
C'est un gros thème. Donc, Corinne, tu nous as parlé de comment les femmes sont moins reconnues.
Ouais.
Et ce qui que leur travail est moins reconnu, elles sont moins citées, elles sont moins présentes comme autrices des articles scientifiques. Et moi, en faisant des lectures là, avant cette émission-ci, il y a un article qui a accroché mon attention et qui était le titre, c'était « À quel point la science est-elle sexiste ?» Et là, ça a attiré mon attention. Et une des statistiques qui est mise de l'avant dans cet article-là, c'est que le salaire des femmes dans le milieu académique aux États-Unis est de 80% ou 82% plus précisément, équivalent à celui des hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a un écart de 18%.
Ce qui est gros quand même.
Donc ça, oui, c'est gros. C'est une statistique qui est issue des données de l'Association américaine des professeurs d'université qui, pour plusieurs, montre que le chemin à parcourir pour avoir une parité dans le milieu de la recherche scientifique est vraiment grand encore. Maintenant, les auteurs de l'article, ils appelaient ça un essai.
Fait que ouais.
C'est comme un genre de... Je sais pas trop comment traduire ça.
Mais d'habitude, c'est un essai.
Un essai, parfait. Ouais. Donc, les auteurs de l'essai, donc c'est Wendy M. Williams et Stephens J. Et là, je sais pas comment ils prononcent, mais c'est peut-être Chechi, C-E-C-I.
Ah, peut-être.
Chessy, Sassy. Je suis désolé, Monsieur Stephen Chechi, je sais pas comment prononcer votre nom. Donc, ce sont deux professeurs de psychologie à l'Université Cornell, dans l'État de New York, aux États-Unis. Et pour eux, cette statistique brosse en fait un portrait incomplet de la situation des femmes dans les milieux académiques américains. Donc, le duo a publié les résultats d'une analyse du milieu académique dans la revue Chronicles of Higher Education. Et là, je connaissais pas cette revue-là.
Non.
Et je trouve ça intéressant parce que c'est une revue qui existe quand même depuis quelques années, plusieurs décennies, et ils ne publient jamais d'éditoriaux.
Ah ouais, ok.
Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est comme une position qu'ils ont de dire, nous, on va jamais publier d'éditoriaux, on va seulement publier des recherches scientifiques ou des essais basés sur des analyses de données. Et dans cette analyse-là, notre duo se penche sur le sexisme dans plusieurs aspects de la vie académique, dont la possibilité de se faire inviter à une entrevue d'embauche à la fin de son doctorat, la capacité des hommes et des femmes à voir leurs articles publiés ou encore à recevoir des lettres de recommandation pour des postes de professeurs, mais aussi les évaluations des professeurs par les étudiants et bien sûr le salaire.
Mm-hmm.
À la base, leur questionnement, c'est s'il est indéniable que le milieu académique a été pratiquement exclusivement une affaire d'hommes pendant des décennies, qu'en est-il aujourd'hui?
Mm-hmm.
Ils se sont donc lancés dans une analyse d'études et de données sur le sujet et ils ont ciblé des études et les données qui sont disponibles entre 2000 et 2020. Donc, les les deux dernières décennies complètes. Sur le salaire, Williams et Chichi sont critiques de l'utilisation de la statistique générale, donc le fameux 82% du salaire des hommes, soulignant que le poids du passé fait en sorte que les hommes sont surreprésentés dans les milieux avec les meilleurs salaires, okay, genre l'ingénierie, la physique, et donc les milieux de recherche où les salaires sont plus élevés, et aussi que les hommes sont surreprésentés dans les postes demandant plus d'expérience parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là et qu'ils sont généralement mieux payés. Donc ce que les deux professeurs ont fait, c'est qu'ils ont pris les données et ils ont analysé en tenant compte de certains facteurs comme le type d'institution, donc des fois la taille de l'institution peut avoir un impact sur le salaire, le nombre d'années d'expérience et le domaine de recherche, et leur résultat, c'est que le fossé passe de 18% à une fourchette de 3,6 à 7%.
Okay.
Et ce que les auteurs soulignent ici, c'est que bien que l'écart salarial semble se réduire quand on met un facteur de, mettons, comparer des hommes dans les mêmes types d'institutions qui font le même type de recherche, même une différence de 3,6% sur 35 ans de carrière, ça va avoir un impact considérable sur le salaire reçu par une femme par rapport à un homme. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que leur objectif, c'est pas du tout de dire c'est fini, la parité est atteinte, ouais, ou genre tout va bien. Ils disent non, le travail est pas terminé, mais eux, ce qu'ils voulaient mettre de l'avant, c'est que le 18% était une statistique qui paraît bien dans une médiatique, mais qui cache en fait une réalité différente selon les contextes.
Mm-hmm.
Il y avait plusieurs autres éléments intéressants dans leurs analyses, dont le fait que plusieurs indicateurs montraient une absence de biais contre les femmes. Donc, les analyses indiquent que l'attribution des subventions de recherche par le gouvernement américain des États-Unis ne montre pas de biais de genre systématique.
Okay.
Cependant, les auteurs soulignent que ce n'est pas le cas au Canada, et ça, Corinne, tu vas revenir là-dessus dans ta prochaine chronique.
Oui.
Williams et Chichi observent aussi que dans le processus d'embauche, une candidature femme va même être légèrement mieux considérée. On souligne cependant que les hommes restent majoritaires dans le processus. Ça veut dire que il y a quand même plus d'hommes qui appliquent sur des jobs de prof.
Ouais.
Et donc, au final, étant donné, juste par la loi des nombres, il y a plus d'hommes qui vont obtenir le poste, mais que dans des tests ou dans des expériences où on envoyait des fausses candidatures académiques, donc une fausse candidature d'homme et une fausse candidature de femme qui étaient équivalentes,
ouais,
ils n'avaient pas observé de biais systématique.
Mm-hmm.
Et ça leur permet de conclure que ce qu'il faudrait faire, en fait, du moins dans le contexte des États-Unis, c'est se concentrer sur les barrières qui existent pour l'obtention d'un doctorat.
Ouais.
Donc, dans le fond, que le filtre, il se fait avant. Et aussi, il faudrait se concentrer sur pourquoi il y a moins de femmes qui appliquent sur les postes.
Ouais.
Donc, ça aussi, c'est des questions qui disent ça, c'est en suspens. Donc, une fois que t'as ton doc, une fois que t'as appliqué, une fois que t'as le même niveau d'expérience, le même niveau de compétence, eux, ils observent qu'il n'y a pas de biais systématique. Mais, elle dit, avant de se rendre là, il y a tellement de barrières que, dans les faits, ça fait en sorte qu'il y a quand même plus d'hommes qui se font offrir des postes.
C'est comme, tu sais, ma comparaison est vraiment tirée par les cheveux, là. Mais quand je faisais des cours de physique, puis on dit toujours, surtout dans la physique mécanique, là, on dit genre, OK, ben, on va vivre dans un monde où on prend pas en compte la résistance de l'air,
oui, oui,
puis on prend pas en compte telle affaire, puis telle affaire, telle affaire.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça.
On prend pas en compte toutes les résistances qu'il y a eu avant. Donc, loin d'affirmer qu'il n'y a pas de sexisme dans le milieu académique, les deux auteurs souhaitent montrer que tout n'est pas désespérant,
ouais,
et que tout n'est pas noir ou blanc. Et ils pensent qu'en mettant en évidence les éléments qui vont mieux, ça serait une occasion de porter un message qui est comme positif et essayer de convaincre plus de femmes de s'engager dans une carrière en sciences en disant « Regarde, tu vas être capable d'acquérir des choses.
Ouais. »
Ils souhaitent aussi envoyer un message qu'il reste du travail à faire, puis en montrant qu'il y a des éléments qui vont bien, puis en montrant qu'il y a des éléments qui vont moins bien, ça permet de recadrer en fait les mesures à prendre pour que les femmes soient mieux représentées dans le milieu académique. Et aussi, peut-être une conclusion très importante, même si certains aspects du milieu ne montrent pas de biais sexiste systémique, ça veut pas dire qu'il n'en existe pas localement.
Ouais.
Donc, ça veut pas dire que c'est pas parce que quand on fait une méta-analyse de toutes les données, on est comme « Ah, ben c'est bon, 56%, donc on est en zone paritaire. » Ça veut pas dire que vous, dans votre expérience, vous avez pas fait face à du sexisme à toutes les étapes de votre cheminement.
Ouais. Puis c'est compliqué, je pense, avec les universités parce que comme c'est pas, ça relève pas du public en soi. Chaque université est un peu libre de faire ce qu'elle veut.
Mmh.
Tu sais, fait. C'est ça, peut-être qu'il y a une université qui va faire super bien, qui tout va être paritaire, les mêmes salaires puis tout ça, mm-hmm. alors qu'une autre à côté, ben il va avoir des grosses différences. Puis je pense que c'est peut-être un peu ça aussi qui relève dans l'étude. Puis ben ça c'est compliqué quand tu y penses. Puis je me rappelle avoir déjà vu des conférences ici. L'Université de Montréal organise souvent des journées femmes en sciences, des mm-hmm. trucs comme ça. Puis je me rappelle plusieurs fois avoir entendu des chercheuses dire qu'elles étaient, je vais nommer les noms des universités, je m'en fous, elles étaient à McGill avant, puis qu'à McGill c'est pas comme à l'Université de Montréal. Ils ont un mode de fonctionnement qui est différent dans tu sais autant au niveau syndical que de la direction puis tout ça, puis ça a un impact au final sur la recherche que tu peux ou ne tu peux faire ou comment tu veux la faire puis tout ça. Fait que justement l'université en soi a quand même beaucoup à dire.
Donc localement, il y a des disparités.
Ouais.
Donc c'est un peu ça aussi leur mise en garde par rapport à leurs résultats. Il y a un élément que tu viens de me faire penser à quelque chose, puis c'est en lien un peu avec ce que tu disais sur la reconnaissance. Donc dans l'étude, je trouvais ça intéressant, il mentionnait que quand il faisait une analyse de tous les commentaires puis que les étudiants avaient fait par rapport à leurs profs.
Ouais, c'est drôle ça.
Ils pouvaient montrer que sur certains aspects, les femmes étaient jugées plus sévèrement par les étudiants.
Ah ouais.
Et oui, et même si, donc dans le fond, et ça j'ai trouvé ça fou, il disait que quand les groupes ont eu des chargés de cours hommes, mais qu'on les informe à tort ou à raison, juste on les informe que la personne qui a préparé le matériel est une femme, ils vont avoir tendance à juger le cours plus sévèrement.
Ah ouais, c'est fou.
C'est fou. Puis il disait que les données quantitatives étaient un peu contradictoires sur ça, mais que quand tu regardais les commentaires, quand tu faisais une genre de méta-analyse des commentaires au niveau qualitatif, il disait que, c'est ça, là, tu pouvais retrouver là, les fameux là, bossy, disorganized et tout ça, beaucoup, beaucoup chez les femmes.
Ouais. Mais c'est fou parce que moi, j'ai entendu souvent dire que quand c'est des femmes qui sont profs ou chercheuses, elles sont beaucoup plus strictes.
Ah ouais.
Ouais, beaucoup plus tu sais, c'est comme si puis j'en ai discuté souvent avec mes collègues de labo, tu sais, c'est comme si ça a été tellement dur pour elles d'atteindre ce niveau-là. Puis ça c'est très, tu sais, c'est très hypothétique là, ça a peut-être même pas rapport, mais ça a été tellement dur pour elles de se rendre à ce niveau-là qu'il faut une résilience tellement importante que ça comme prend de la place sur tout le reste, fait qu'ils sont comme sont plus strictes, sont plus demandantes, qui ont des attentes plus hautes vis-à-vis de tout, parce que ben c'est comme un petit coche au-dessus. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si ça. Je sais même pas. Tu sais, je pense pas que ça puisse qu'on puisse mesurer ça de quelconque manière. Mais c'est des codes, ce genre de commentaires qui ressortent aussi beaucoup. C'est pas ça non plus. C'est pas reluisant comme portrait.
En plus, moi, j'avais choisi là, quelque chose qui était supposé être positif là ici, là, pour montrer qu'il y avait certains aspects que ça allait mieux. Là.
Eh ben, ça sera pas pour aujourd'hui, malheureusement.
Bon, ben, on va poursuivre en musique pour.
Ouais, on va aller écouter MCM avec Sarah May. On va écouter la pièce Solide.
Soir peu importe, rester pour mes mois, je veux pas me faire chier.
Je cook mes pas dans la cuisine.
Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et Corinne va nous parler de l'attribution des fonds de recherche qui, selon les auteurs dont on vient de parler tantôt, montrent des biais systémiques contre les femmes au Canada et en Europe. Et là, on va parler du Canada particulièrement.
Oui, tout à fait. En fait, ma chronique a commencé, pas elle a commencé, mais quand je pensais à de quoi j'allais parler dans cette chronique, que je voulais, c'était aller chercher sur le site du gouvernement canadien, je voulais voir si les statistiques existaient de combien de fonds combien de subventions de recherche sont attribuées aux femmes versus les hommes. Mm-hmm. Je n'ai pas trouvé cette information. Okay. En fait, je suis tombée sur des pages du gouvernement canadien où que c'était juste tu avais comme une liste de projets qui étaient financés. Il y avait genre 8000 pages parce que ça comprenait tout, pas juste les subventions de recherche, mais toutes les subventions genre aux OBNL puis des trucs comme ça. Donc, j'ai rapidement abandonné le projet. Vous comprendrez pourquoi. Mais je suis tombée sur un autre article qui provient de CBC. En fait, ça a été vulgarisé par CBC. Mm-hmm. Et ça ressort en fait un article qui a été publié en 2019 dans le journal de Lancet. J'ai parlé du journal Nature tantôt, mais de Lancet, c'est encore plus...
Bon, là, on est quand même dans des catégories où...
Si tu publies là-dedans, dans ta carrière, c'est wow.
Ça va bien.
Ça va bien, exactement. Le facteur d'impact du Lancet, c'est genre 170. C'est gigantesque.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ah, un facteur d'impact, c'est une espèce de notation des journaux scientifiques.
Okay.
Plus ton facteur d'impact est important, ben plus ton journal a de valeur, en espèce de guillemets. Et c'est plus, donc, eux, leurs règles et leur liste de cases à cocher, pardon, et rigoureuse.
Okay.
Et c'est ça. Donc, plus ton journal est important, plus son facteur d'impact va être grand. Et c'est un système qui est beaucoup... c'est pas un très bon système, je vais pas te mentir. Ça pourrait faire le sujet d'une toute autre émission. J'ai vu une conférence là-dessus, c'était vraiment intéressant, mais le système est un peu biaisé. Parce que, tu sais, quand tu soumets un article scientifique, tu dois payer. Mmh. Les frais sont plus importants pour les grands journaux. Puis eux, après ça, ils obtiennent les droits de ça.
Ah.
Puis après ça, ils font payer les autres personnes pour avoir accès. L'Université de Montréal paye des centaines de milliers de dollars annuellement pour donner accès aux étudiants à ces journaux-là, c'est tout un monde. Mais c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, malheureusement. En fait, c'est ça. Donc, l'article publié dans The Lancet s'intitule « Are gender gaps due to evaluations of the applicant or the science? » Point d'interrogation.
Ah.
A natural experiment at a national funding agency. Donc, ça a été comme publié en 2019, comme je le disais, par une équipe. Ben, en fait, c'est quatre chercheurs. Holly Whitman de l'Université Laval, puis trois autres auteurs de McGill, du Knowledge Institute of St. Michael's Hospital de Toronto et de l'Institut de la Santé des Femmes et des Hommes, donc du gouvernement canadien. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé près de 24 000 demandes soumises aux instituts de recherche en santé du Canada, donc les IRSC, qui est l'agence du gouvernement fédéral qui octroie à chaque année environ $1 milliard de subventions scientifiques. C'est gigantesque et une chance qu'ils font ça, parce que on se rappelle que la science doit être financée. Voilà, fin de ce deuxième éditorial. Et ça, ça varie beaucoup aussi selon le parti politique au pouvoir et ouais. Malheureusement. Donc, l'auteur principal de l'étude, Holly Whitman, explique en fait que les IRSC ont créé une expérience naturelle en 2014. Ils ont établi deux nouvelles voies de financement. Donc, le programme de subvention de projets qui vont se concentrer sur des idées ayant le plus grand potentiel, entre guillemets, radiophonique. Et l'autre, il y a le programme de subvention de fondation qui va financer les chefs de file, les leaders de la recherche, donc financer plutôt une personne que son projet. Et donc eux, ils ont obtenu ces données-là, ils ont checké les statistiques et pour les subventions sur les idées, donc sur les projets, les hommes et les femmes ont des résultats qui sont similaires. Donc il y a 13,5% des candidats masculins qui ont été retenus et 12% des candidates féminines. Donc on est à peu près dans le même
en zone paritaire.
Exactement, à peu près. Sachant que ça va jamais être 100% ouais. égal à la personne près, là, puis c'est pas nécessairement ce qu'on vise non plus, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, dans le cadre du financement de la personne, là, si on veut, il y a eu presque 14% des candidats masculins qui ont obtenu un financement, contre seulement 9% des femmes. Mm-hmm. Puis là, ça c'est un biais, c'est pas un biais, mais c'est une différence qui est quand même importante. On parle de près de 4%. Fait que c'est un peu dire comme, ben vos idées ont la même valeur, mais vos personnes non.
Ah.
C'est un peu, moi c'est comme ça que je l'interprète du moins. Fait que ça c'est problématique aussi quand tu y penses. Puis c'est particulièrement en santé publique que la disparité est plus frappante parce que il y a plus de femmes chercheurs, ben il y a plus de chercheuses en santé publique que de chercheurs. Mmh. Et mais il y a deux fois plus, non pas deux fois plus. Les hommes ont deux fois plus de chances d'obtenir des subventions que les femmes.
Okay.
Mais il y en a moins.
Dans
le domaine de la santé publique, on parle de 14% des hommes contre un peu moins de 7% des femmes. C'est vraiment frappant. Et dans l'ensemble, les demandes qui proviennent d'hommes sont aussi deux fois plus nombreuses que celles émanant des femmes, parce qu'il y a plus d'hommes qui sont chercheurs principaux aussi. Mm-hmm. Puis l'analyse a pris en compte l'âge et le domaine d'études aussi. Fait que c'est un peu alarmant, ça aussi, que comment les IRSC fonctionnent, puis c'est un peu un problème. Puis il y a beaucoup de dans l'article de CBC, ils sont allés poser des questions à d'autres chercheuses, puis ils disaient que c'est vraiment un enjeu parce que ces financements là qui viennent du gouvernement du Canada sont super importants pour ta carrière, mais aussi pour faire fonctionner ton labo. Puis au Canada, la majorité du financement provient des gouvernements, donc soit le fédéral ou au Québec le gouvernement du Québec finance aussi à travers les FRQ, donc les fonds de recherche du Québec. Donc, c'est vraiment un enjeu. Puis, il y a beaucoup de monde qui sont en accord avec le fait qu'il devrait y avoir une refonte ou une réforme du mode d'attribution du financement provenant des IRSC. Je pense qu'on peut dire plus globalement parce qu'il y a le CRSNG aussi et le CRSH, donc sciences humaines, sciences naturelles et génie aussi. Ça devrait être la même chose. Donc, voilà un
Est-ce que l'étude proposait des pistes de solution?
Bonne question, parce que j'ai pas lu l'étude au complet, okay. Mais je vais aller voir, je l'ai ouverte sur mon ordi. Et, tac, il y a beaucoup de...
la table de matière est importante.
Non, ils ont des limitations, par contre, mais... Okay. Je suis pas certaine, mais faudrait que je la lise au complet, ce que j'ai pas fait, malheureusement. Bon. Elle est vraiment longue, là, aussi.
Je suis désolée, t'avais posé une colle.
Non, c'est pas grave.
Parce que tantôt, on parlait qu'il y avait pas de proposition de solution, puis là, ça a l'air que, en tout cas, c'est pas ça qui a été mis de l'avant, mettons, dans l'étude.
Exactement, malheureusement. Puis aussi, j'avais trouvé une autre petite statistique intéressante. La situation s'est quand même améliorée parce que comme je le disais au début d'émission, au début du siècle dernier, c'était majoritairement des hommes là, dans les universités. Puis là, on est en augmentation frappante. Puis Statistique Canada a fait des comparaisons et il y a beaucoup plus de femmes ils ont comparé 2021-2022 à 1971-1972 et il y en a quand même beaucoup plus. Le nombre de femmes dans le monde académique a presque triplé, passer de 12% à 42%. Donc,
c'est sur cette bonne nouvelle de fin. Voilà, on va se laisser sur une bonne nouvelle. Donc, c'est avec cette bonne nouvelle que se termine notre émission cette semaine sur les femmes en sciences. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur le site de CSM ou sur les applications de balado. Et nous, on se dit
À la semaine prochaine.
Mais c'est comme moi à niveau, c'est messieurs pour éviter les coups bas à logique. Moi de moi qui sont au café, en qui répondent, puis en yasbi avec émoji. Faiblesse procédure et c'est humaine. Ça impossible par ressenti sentiment. Ça tend du gros gentleman. Les erreurs du passé seront mes sentinelles. Si vous y connaissez tout en moi, ça bizarre, pas senti dans moi, toute bague est brisée. Mais je me grand avant de partir le matin, je mets mes plus beaux habits. Oh, je tombe en jade, moi, mi de finger. C'est pissé, pas même moi pour pas moi vitamine, c'est quelque chose par jour pour mener la vie saine. En lampade, en poche prince, c'est toutefois en t'effet fausse route. En bambi, grand joker, en pas sorti si ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'est pris, pis ça glisse, ça ouvre tout. Moi, à t'es pas oublié en baguette capitale. En béni, en béni. En béni, en béni, en béni, en béni, j'm'en dis pas ta péri en linge sale. En vrai, si yo t'es, ça va qui point, yo peut pas aller, yo peut pas aller. Spéculation, c'est beau, père, à tout cas, pour pli, yo peut oublier, yo qui calé. La vérité est dans la bouche des membres plus aux parents qui connaissent pas le répit. Manger un assiette, poche la brève, ta 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 la mate, c'est un artiste. En lampade, en poche pince, si toutefois on t'est fait fausse route. En pampi, grand joker, en pas sorti, si ni en doute. Ça veut la vie arrête, mais ça t'est plus, pis ça qui ça ouvre. Vous me hâtez pas oublié en baguette capitale. En béni, en béni.
Cette émission était une rediffusion.
Recorded in front of a live studio audience.
T'as rien trouvé de bon sur Netflix, puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Champ Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Champ Libre, tous les lundis à midi sur les ondes de CISM 89,3 FM, La Marge.
Être dans La Marge à CISM, ça date pas d'hier.
10 000 watts de puissance. CISM 89,3 FM, Montréal.
Ici Vulgaire Machin, vous écoutez
CISM 89,3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal.
Mais qui met de l'acide dans mon eau potable? Je crois que j'hallucine. Je crois que je divague. Mais qui met de l'acide?
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage québécois. Ce printemps, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Étienne Dufresne, Violette Bi, Les Deluxe, Rosalie Ayotte, Libelle, Marco Emma, Philippe B, Charlotte Brousseau et Anak Nib. Rendez-vous sur lezarico.com pour tous les détails et la programmation complète. Venez vivre l'expérience Le Zarico. Parce que Le Zarico, c'est tout. Accessible avec l'autobus 200 à partir du métro Longueuil.
All of Us Strangers d'Andrew Haig, Monstre d'Hirokazu Kore-eda et La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Quand ces trois films en commun, ils sont à l'affiche au Ciné-Campus de l'UdM ce printemps. On termine la saison cinématographique en grand avec des projections à seulement 5 $ pour la communauté étudiante et à 7 $ pour le grand public. Programmation complète sur culture-umontréal.tuxedobillets.com.
Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
Production Nuit d'Afrique présente la superstar malienne Oumou Sangaré, qui a influencé tant Beyoncé qu'Ali Chakiz. Oumou Sangaré sera en concert exclusif le 21 avril au MTLUS. Billetterie et info sur festivalnuitdafrique.com.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Écoutez La Collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.